RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Nicolas Jamin.
Salut à toi, inconditionnel de Marco Grassi et Alain Caviglia. Bienvenue dans le podcast After Lyon avec nous cette semaine. Coach Courbis, salut coach.
Salut les amis.
Et notre correspondant à Lyon, Edouard G. Salut Edouard.
Salut Nico, salut coach, bonjour à tous.
Messieurs, question très simple cette semaine. L'OL, dernier de Ligue 1, peut-il s'en sortir? Pourquoi John Textor ne mesure-t-il pas le danger qui guette? On va en parler, on va en débattre ensemble bien sûr. Bienvenue dans le podcast After Lyon, c'est parti. D'abord quelques chiffres pour bien comprendre le pétrin dans lequel s'est mis l'OL. Le 18e et dernier de Ligue 1 a glané 3 points sur 27 possibles. Seule équipe à ne toujours pas avoir gagné un match. Voilà, 9 matchs sans victoire.
Sans ouverture du score aussi.
Sans ouverture du score. C'est une première à Lyon depuis 1966. 9 matchs consécutifs sans victoire. Roland était encore un jeune adolescent, je crois.
66.
T'avais 13 ans.
Bah, oui.
J'ai vérifié, t'avais 13 ans. Voilà. Je précise aussi que 14 des 17 équipes ayant eu ce nombre de points, à savoir 3 au quart du championnat, nous y sommes, ont été reléguées à l'issue de la saison, soit 83% d'entre elles. Voilà pour le décor, tableau inquiétant. Et pourtant, on a là un président, John Textor, qui estime que la menace d'une relégation n'est pas un sujet.
Je sais que vous devez poser la question, mais pour moi c'est une question comique. Cette équipe ne risque pas la relégation. Les équipes qui descendent dans les autres championnats ne jouent pas comme nous avons joué ce soir. Il y a beaucoup trop de négativité autour du club.
Voilà, John Textor, magnifiquement traduit par Jimmy Brown. John Textor qui, de manière incompréhensible, donc, coach Edouard, affiche sa sérénité. C'est une confiance de façade, Edouard, ou il croit vraiment en ce qu'il dit, le patron de l'Olympique Lyonnais?
Bah en tout cas, nous, quand on l'avait en face, en zone mixte, dimanche soir vers 23h, les bras nous en ont en sont tombés. En fait, heureusement, il fallait tenir le micro et la caméra avec Aurélien Tiercin, parce que entendre ça, les yeux dans les yeux, même en souriant à une consoeur qui a évoqué l'avenir en Ligue 2 en disant bah, « vous êtes une gentille femme, mais en gros, vous n'y connaissez rien et vous verrez, c'est ce que vient de traduire Jimmy », c'est assez incroyable. Et après, on lui repose la question et il nous dit « mais vous êtes des fans, c'est vous qui êtes trop inquiets, etc. » Donc déjà, il prend les journalistes pour des communicants d'une certaine manière, et puis la négativité autour du club. Il évoquait un certain nombre de prises de position, notamment du président de la métropole sur BFM Lyon récemment, Bruno Bernard, alors fan de foot, mais quand même président d'une institution. Hein. La métropole, c'est 59 communes, 1,5 million d'habitants, qui a sponsorisé, financé un certain nombre d'aménagements sur le stade, qui a appris par la presse qu'il voulait vendre l'aréna, et qui donc a évoqué un projet illisible. Voilà pour un petit peu ces éléments de langage. Il y a ce qu'on a vu là, ce que vous avez on, et puis il y a ce qu'on nous raconte dans les loges, parce que dimanche soir, toute cette semaine, il y a le board de l'OL qui est là pour un certain nombre de conseils d'administration. Ce mardi, il y avait la photo officielle, etc. etc. Une certaine décontraction, ils sont calmes, sereins. Il y a même un qui a pris un membre du board brésilien de l'OL, des Gulf Football, qui prend à partie un voisin, un pur lyonnais, ancien joueur, qui lui dit « mais pourquoi t'es tendu? Pourquoi t'es triste ?» Alors que le public chantait « on est en Ligue 2 hein. ». J'ai jamais entendu ça au Groupama Stadium. Et donc, on a l'impression que tous ne comprennent pas ce qui se passe et qu'ils ont foi en leur projet. En repoussant un certain nombre d'échéances, on en parlera. Mais pour l'instant, il y a 3 points en 9 matchs.
Bon, comment tu lis la communication de John Textor? Est-ce que cet homme-là ne comprend absolument rien? Il ne connaît pas l'histoire du foot, notamment? Ou est-ce que en façade, coach, il dit vous inquiétez pas, ça va aller pour mieux travailler en coulisses.
Oui, je pense que dans son idée et dans sa réflexion à lui, bon, ça reste la sienne. Bon, il veut faire celui qui est pas inquiet, alors qu'en vérité, il doit l'être.
Ah oui.
Mais si tu veux, je vois que ça d'ailleurs. Il veut dédramatiser la situation. Sinon, je vois pas sincèrement qu'il puisse ne pas être inquiet. Donc, c'est tout simplement impossible. Mais après, il faut regarder les choses aussi. Tu as un effectif qui est quand même un effectif capable de pouvoir mettre en place des équipes et des compositions d'équipes et des organisations qui peuvent poser des problèmes aux adversaires. J'ai regardé le dernier match avec beaucoup d'attention et beaucoup de curiosité. La première mi-temps, avec certains choix bizarres, elle n'a rien à voir avec la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, bon, même si ça n'a pas été souligné, là je suis peut-être un petit peu maniaque, ben, Lyon gagne cette deuxième mi-temps 1-0 avec des regrets pour moi de ne pas avoir démarré dans cette formule-là. Donc, on peut être inquiet, mais je pense qu'il y a de quoi aussi rassurer ceux qui pensent que Lyon est déjà en Ligue 2.
Parce que tu parles de jeu, parlons du coach, hein, Fabio Grosso, c'est un point en 4 matchs, hein, c'est 20 titulaires utilisés différents en 4 matchs, c'est 3 systèmes différents, c'est le signe d'un entraîneur qui est perdu, mon cher Edouard, ces sentiments que tu as, ou d'un coach qui a besoin de temps pour tester son groupe qu'il découvre encore aujourd'hui.
Ben, en fait, il met tellement une méthode en place, tellement rigoureuse en termes de présence à l'entraînement. Il faut être là très tôt. Les séances sont doublées, mais pas doublées en termes de contenu. Hein. C'est que chaque groupe, on ne fait pas forcément plus de travail, mais j'ai déjà dit ici, plus de chirurgie. C'est-à-dire qu'on va diviser le groupe en deux, donc ça prend bien évidemment plus de temps, mais ça agace un petit peu le monde, comme après le match de dimanche, lundi, c'était prévu off, et puis finalement, c'était prévu. La journée était transformée en journée de travail pour simplement faire une petite course de 15 minutes sur le terrain. Donc, ça agace un petit peu à ce niveau-là. Et de toute façon, c'est une nouvelle méthode qui a ce qu'elle a, mais pour l'instant, malheureusement, ça ne marche pas, gagne pas. Et pour avoir ça, il va falloir l'adhésion des joueurs. Oui. Et cette adhésion, pour l'instant, elle est limite.
Parce attention, que coach.
Il y a une rigueur qui va jusqu'au bout. Par exemple, juste, je te donne cet exemple, coach, de Nicolas Tagliafico. Il est argentin, champion du monde argentin. C'est un statut, ça ne fait pas tout. Hein. Mais il est en sélection dans la trêve internationale. Trêve internationale où les joueurs, sur les 15 jours, n'ont eu qu'un jour de repos. Hein. Un jour de repos sur les 15 jours, il faut travailler. Et donc, Nicolas Tagliafico ne fait pas partie de cela, parce qu'il est l'un des rares internationaux qui n'est pas là. Il rentre le jeudi, il a le vendredi off, et il décide d'aller à Paris voir la demi-finale, l'Argentine face à Nouvelle-Zélande en rugby. Le coach l'apprend, et finalement il disparaît du groupe de 25.
Il a manqué un entraînement en
Non.
Non, c'est un jour off. Rigueur, c'est un jour off.
Eh bien alors.
Ils lui ont donné un jour de repos et le coach a estimé
à cause du voyage,
repos, tout ça, ouais. Il devait rester chez lui et pas aller faire un aller-retour à Paris. Mmh. Ouais, cette rigueur, jusque dans cet extrême-là, même avec un joueur exemplaire comme Nicolas Tagliafico, c'est ça qui peut peut-être agacer.
Coach.
Je pense aussi qu'il faut faire attention et pas tout mélanger. Qu'il y ait des obligations de discipline, qu'il y ait des obligations de sévérité. Ok. Mais que les entraînements pour l'ambiance et l'atmosphère dans un vestiaire, ça ne doit pas non plus être une punition. Quand, par exemple, j'entends le programme qui a été fait pendant cette coupure internationale, je m'imaginais être ce que j'étais joueur, mais des exercices à n'en plus finir sans le ballon. Mais ouais. Là, on veut en
du physique, du fractionné,
on veut en arriver où là ?
Donc, arriver à rattraper le travail qui n'a pas été fait cet été par Laurent Blanc et son staff, savoir un groupe qui n'est pas prêt physiquement.
Pourra pas se rattraper avec une quinzaine de jours ou 3 semaines. Et là, bon, il faut pas non plus lui en vouloir. C'est un jeune entraîneur qui démarre et qui aura l'occasion de progresser lui aussi, comme ses joueurs, mais qui fasse attention à ne pas sanctionner une indiscipline d'un joueur qui est champion du monde et qui après avoir un petit peu soufflé pendant la trêve, est allé voir que c'est à 2 heures de TGV.
C'est ça.
Ouais. Et sans louper d'entraînement, hein, rien du tout. Hein.
Sincèrement, je pense que ça a dû déclencher des tu entre
joueurs.
Non, je pense que ça c'est pas un
exemple. C'est là où il doit progresser.
Voilà, c'est pas un exemple pour moi qu'il fallait faire des conneries. On en fait tous. Faut-il encore y réfléchir aux conneries qu'on peut faire. Et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour te dire, tiens, Tagliafico, j'aurais pu aller lui mettre ou lui faire mettre une amende sur un plan financier vis-à-vis de ses coéquipiers. Mais si, par exemple, les écarts de tout mon effectif, c'était d'aller voir un jour de repos l'Argentine à 2 heures de train. Ouf, j'ai connu pire, tu vois, comme...
Bon, attention surtout à ne pas perdre aussi les cadres du vestiaire. Je pense bien sûr à Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Ce que tu nous envoies comme info, c'est que eux, en revanche, font en sorte, c'est de là, que le groupe reste uni.
Oui, oui, Alexandre Lacazette a invité dans un restaurant du 7e arrondissement il y a 15 jours tous ses coéquipiers. Corentin Tolisso l'a fait chez lui. Voilà, on est loin du gang des Lyonnais, de ce qu'on a pu lire, entendre sur un certain nombre de choses. Il y a une forme d'unité là-dessus. Le seul souci, Nico, et coach, tu as connu ça malheureusement, c'est un vestiaire qui perd. Et donc, qui pour l'instant se renvoie peut-être un peu la balle sur un certain nombre de choses, mais il n'y a pas d'animosité. Il y a cette unité, cette volonté d'être ensemble, mais il manque, et c'est ce que me disent aussi certains, il manque cet électrochoc. Parce qu'on le fait, quand je vous parlais de ces 15 jours avec un seul jour de repos, on est toujours au centre d'entraînement, on fait toujours la même chose. Il n'y a pas eu de stage de cohésion, par exemple. J'ai discuté récemment avec le nouveau manager.
Je te dis, on mélange tout. Loup. Les programmes que donnes, ce sont des programmes de punition.
Oui, exactement.
Ce n'est pas ça qu'il faut pour les joueurs lyonnais. Il faut un programme de réconfort.
Et de exactement. Plaisir au quotidien à l'entraînement aussi. Quoi. Fabio Grosso est décrit comme un entraîneur qui coupe chaque séance régulièrement pour parler, faire refaire. Peut-être d'abord retrouver le plaisir, pourquoi pas. La question qui nous réunit cette semaine, Edouard et coach, c'est comment Lyon peut s'en sortir surtout. Textor l'a dit et répété, le salut passera par un ambitieux mercato d'hiver. C'est dans 11 matchs, hein. C'est quand même loin mon cher Edouard. Il y a plein de questions qui se posent quand il dit ça. Déjà, est-ce que Lyon aura les moyens de le faire ce mercato?
Alors, les moyens financiers, ça, on ne sait pas, parce qu'il y a eu tellement de promesses de John Textor c'était difficile de savoir, parce que je vous parle d'un homme, et ça, ce sont les remontées de vestiaire recoupées, hein, qui, lors d'un match amical face à Molenbeek au mois de juillet, dit les yeux dans les yeux aux joueurs, je ne vendrai pas les jeunes talents du vestiaire. Une semaine plus tard, Castello-Luqueba s'en va. 3 semaines plus tard, Bradley Barcola s'en va. Comment voulez-vous que les cadres aient confiance dans ce que dit le président? Le président dit on va recruter, c'est très bien au mois de janvier, mais c'est dans, tu l'as dit, 11 matchs, donc il faut quand même engranger un certain nombre de points. Et puis après, il y a deux lanternes rouges qui sont là. La DNCG, sauf erreur de ma part, n'a toujours pas levé l'interdiction du mois de juin. On le saura au mois de novembre. Et puis après, il y a quelque chose que beaucoup oublient, c'est la transaction concernant Ernest Nouama, qui vient de Nordjelel, qui est allé acheté par Molenbeek et prêté dans la foulée à Lyon, qui est sous le regard de la FIFA. Alors, ça pourrait, pourquoi pas, à terme, on peut imaginer une interdiction de recruter.
Bien sûr, une sanction.
Et donc, même si tu as des millions, bah, tu ne pourras pas les faire au mois de janvier. Et puis, dernière question, coach, Nico, au mois de janvier, qui voudrait, admettons que rien ne bouge, venir à Lyon, une équipe qui est dernière, pour sauver la...
Alors, oui, si Lyon est dernier à ce moment-là, effectivement.
Mais dans les places de dernier. Et on me dit, oui, ben, des joueurs de Botafogo viendront. Botafogo va sûrement être champion du Brésil et va, à partir du mois de janvier-février, faire la Copa Libertadores.
Ah, donc tu me dis qu'il y a un contingent de Brésiliens de Botafogo qui risque de débarquer à Lyon cet hiver.
Bah, c'est les adaptations que l'on entend.
Il y a mieux comme saison pour s'adapter. Venir en cours de saison au cœur de l'hiver lyonnais, c'est bon, bref.
Et puis, en plus, ce sont des joueurs qui seraient champions, parce que c'est le sens de l'histoire pour Botafogo actuellement, champion du Brésil, donc qualifié pour la Copa Libertadores dans l'hiver français. Entre la Copa Libertadores et venir à Lyon pour sauver un club, je suis joueur brésilien,
coach.
Je reste au Brésil.
Ça me fait rire, parce que je m'imagine 4 ou 5 cousins de Neymar débarquer.
Avec la doudoune.
Et s'occuper de tous les endroits sympas de Lyon.
Oh, ouais. Comme tu vas, coach.
Attends,
ça y est, le Brésilien
trop...
est fêtard, par définition.
Tu coûtes trop Julien Cazard, toi.
La fetch, coach.
Mais par contre, plaisanterie mise à part, je crois que le recrutement, déjà, il doit se faire avec une certaine tranquillité, une certaine vision de savoir les joueurs qu'on doit prendre, avec quel profil il va falloir les choisir. Ça, aujourd'hui, au club, qui c'est qui a ce rôle-là?
Bah, alors, il y a Mathieu Louis-Jean,
John Textor,
et peut-être en concertation avec Fabio Grosso pour cet hiver.
Voilà, donc, et là bah, c'est vrai que ce n'est pas amusant de venir à Lyon, qui est mal classé, qui sera certainement à la trêve dans les trois derniers. Mais de notre côté, ben tu as une mission, ça sera celle-là. Et un joueur qui aujourd'hui est en doute dans son club, qui n'est pas titulaire, ben il a envie d'aller à Lyon pour justement savoir que Lyon va être sous les feux de l'actualité en ce qui concerne un petit peu cette désagréable surprise de les voir aussi mal classés. Et que le recrutement soit possible au mois de janvier sans avoir une fortune à dépenser, mais je pense que c'est tout simplement faisable.
Bon, le mercato pour l'instant est raté, on peut le dire, les gars. De ces derniers mois, l'été dernier, l'hiver dernier, c'est le travail de Mathieu Léjean aussi, il faut le préciser. Tchaï Tatsar n'existe pas. Nouama, c'est très décevant après une bonne première demi-heure.
Si par exemple aujourd'hui, nous aussi, il faut quand même qu'on ait une certaine compréhension. Si par exemple, tu passes tous les jours aux entraînements, matin, midi et soir, tu les fais venir 2 heures avant, partir 2 heures après, et que tu as une comparaison à faire avec ce Diawara qui rentre en deuxième mi-temps par rapport à celui qui a joué en première mi-temps, là j'ai l'impression qu'il y a un entraîneur, qu'il y a un entraîneur qui est à Toulon depuis 24 heures. à Lyon, pardon.
Qu'est-ce que tu penses, mon cher C'est marrant, ça, beau lapsus. Hein. Pense à Toulon, coach encore.
Ben oui, je pense à Toulon.
Il n'oubliera jamais Toulon.
Non, parce qu'on s'est retrouvés dans des situations difficiles et chaque fois, on s'est sauvés.
Qu'est-ce que tu penses de ce milieu de terrain lyonnais? Parce que là, tous les messages qu'on lit, nous, quand on fait l'after le soir sur Twitter, ils sont terribles. On nous parle du pire milieu lyonnais depuis des décennies.
Quoi, Kakere et Diawara, c'est le pire
Non, ce qu'on a vu notamment... Contre Clermont, Akoku, notamment Edouard. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Paul, moi, j'en discutais avec certains, même en commentant avec Aurélien et Jean-Louis dimanche soir, Jean-Louis Tour et Aurélien Tiersin, je dis, j'ai mal aux yeux, quoi. J'ai jamais vu un milieu aussi faible de l'OL qui entraîne par le bas Maxence Caqueré, qui n'est pas forcément en plus au fait de sa forme, mais en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Et pour avoir discuté avec un Maxime Gonallon à la fin du match, il me dit « mais c'était quoi ce milieu, quoi ?»
Et
même
ah bon
lui, ça lui faisait… Oui, ça lui faisait d'une certaine manière, ça lui faisait mal à la tête, quoi, en fait, de voir aussi peu de qualité de pied, d'aussi peu de... Alors, Ashley Maitland-Niles était dans un rôle un petit peu bizarroïde, hein, dans un 4-3-3 qui se transforme en 4-2-3-1, donc sur le côté, etc. Bon, c'était un petit peu délicat avec une mise en place qui n'a pas été faite le matin. Et simplement, on a dit, voilà, tu vas te positionner comme ça par rapport à Ryan Cherki. Là aussi, ça fait partie peut-être des choses qui ont amené le deuxième but de Clermont, mais clairement ces joueurs-là, ils n'ont pas forcément le niveau. Oui. Et de voir un gamin de 18 ans être le meilleur, ça en dit long quand même. Parce
c'est ça. Alors, faisons pas la comparaison avec lui et les autres, mais essayons quand même de voir et de se demander comment ce joueur-là du Paris Saint-Germain a pu atterrir à Lyon. Ils ne font pas que des mauvaises choses à Lyon, parce que piquer ce joueur-là au Paris Saint-Germain, mais pour moi, c'est un exploit.
C'est un exploit, même si Exactement. Paris a du mal à garder ses espoirs, hein, qui ne trouvent pas tant de jeu au Paris Saint-Germain.
Il y en a tellement que...
En plus, il y en a beaucoup.
C'est compliqué.
Un exploit de la cellule recrutement de l'académie à ce moment-là, comme un Sahel Koumbédi ou d'autres, ou Clinton Mata, par exemple, même si lui, il n'est pas forcément jeune. Voilà, ça, c'est un petit peu les bonnes choses qui ont été faites par le
Edouard,
passé, sans toutes les datas.
Vincent Ponceau est désormais l'ex-directeur du football de l'Olympique Lyonnais masculin. Hein. Il prend en charge la section féminine. C'est pas une éviction, hein, rapidement.
Non, c'est simplement un souhait plus ou moins de sa part de s'enlever de toute la pression qu'il avait, parce qu'il était commandait tout le football de tout l'OL, hein, masculin, féminin. Voilà, il était vraiment dans le juridique, il choisissait rien du tout. Il y a eu un... Bon, bref, on va pas rentrer
on va pas refaire l'histoire, en tout cas, il n'avait pas le
choix. On va pas refaire l'histoire. Mais en tout cas, lui, il a voulu aller avec Michel Kang. Et donc, finalement, voilà, il est dans ce poste-là qu'il va lui valoir de meilleurs jours.
Il sera remplacé rapidement ou pas?
Normalement, c'est le sens de l'histoire. Cette semaine va être importante parce que justement, tout le board américain et étranger de l'OL est là avec une série de conseils d'administration, la possible enfin vente de l'OL féminin, etc. etc. Donc, il peut y avoir des annonces dans la semaine avec un nouveau directeur général. Et pourquoi pas enfin peut-être un directeur sportif, parce que clairement, pour l'instant, John Textor, propriétaire et directeur sportif, a amené Jeffinho, Maitland Nice, Akuoku, Jacob Ryan,
Baldé, Morera.
Baldé, voilà Morera. Donc, et puis Baldé, Kaleta Tsar et Maitland Nice, c'est quand même trois joueurs qui ont connu des descentes avec les deux, le Croate et l'Anglais avec Southampton, et puis Mama Baldé avec Dijon et Troyes. Et je peux vous dire que dans le vestiaire, on se dit oui, ben voilà, comment voulez-vous qu'avec des joueurs qu'on recrute comme ça, on puisse jouer bon. Le haut du tableau.
Je rappelle le calendrier qui peut faire frémir les supporters lyonnais qui nous écoutent. Hein, le calendrier de l'OL à venir, déplacement au Vélodrome ce dimanche, réception de Metz, déplacement à Rennes, réception de Lille, déplacement à Bollard, à Lens. Voilà pour les cinq prochains matchs de Lyon. On sera là, bien sûr, pour les débriefer. Avec Coach Corbis.
Ouais, ben, donc, je te réponds. Si on regarde le dernier match de la façon suivante, enfin, c'est peut-être une façon à moi, avec le calendrier que tu nous as donné, le Lyon de la première mi-temps, il ne prend aucun point dans ce calendrier. Le Lyon de la deuxième mi-temps, sans parler de rappeler Tagliafico, hein, donc, là, ce moment-là, on verra.
On verra, c'est là-dessus qu'on se quitte. L'espoir de Coach Corbis sur la fin de l'épisode du podcast After Lyon. Merci Edouard.
Salut Nico, salut coach. Salut.
Et merci Nico. Coach, rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer bien sûr.
Salut, salut.
Ce Marseille Olympique Lyonnais. Bonne semaine à tous.
RMC After Lyon.